Interview.
2 jours.
Joël Litz, bonjour.
Bonjour.
Vous-même donc êtes vannière et vous avez un stand avec beaucoup de paniers présentés, tous très beaux, très originaux, je dirais aussi. Et pour vous, la vannerie, c'est une vocation?
Je fais ça depuis 2007. Oui, c'est un truc qui me passionne bien, qui... J'aime le travail manuel, j'aime le tressage et je me suis lancée là-dedans parce que à la force de regarder les paniers à droite et à gauche, j'ai trouvé ça serait sympa de savoir le faire et je me suis lancée, voilà. Et j'ai trouvé aussi que c'était pas plus bête qu'autre chose de faire des paniers et de les vendre, voilà.
Bien au contraire, et justement avec cette époque que nous vivons, où on se rend compte également qu'il y a énormément de plastique produit et mal recyclé. Donc, est-ce que on peut penser au retour du panier aussi comme simple outil de transport ?
C'est ce que les gens en font, mes clients font ça. Ils se servent de mes paniers pour faire leurs courses aussi et pour aller aux cueillettes, au marché. Mais non, il n'y aura pas de retour. Les plastiques sont beaucoup moins chers, les paniers d'importation sont beaucoup moins chers. Et on est très cher parce qu'on a beaucoup de travail. Voilà.
Ah, peut-être c'est cher, mais c'est un objet qu'on conserve quand même.
Oui, après, bon, les gens, ils sont capables d'acheter des portables et des machines à laver qui durent 2 ans et tout est normal. Mais nous, si au bout de 10 ans, il y a le moindre truc qui se dégrade, on prend cher. Donc, c'est quand même un peu exagéré des fois. Ceci dit, mes trucs sont très solides et il y a très rarement un problème. Il y en a presque jamais eu.
Et quand bien même, il y aurait un service après-vente?
Oui, c'est sûr. Après, au bout de 30 ans, bon, je pense que je ne serai plus là. Donc ça, c'est bien. Mais oui, un panier, quand il est trop vieux, on m'amène régulièrement des choses à réparer. Et c'est des choses qui sont hors d'âge, qui sont piquées par les vers à force d'être anciens et où le matériel a vieilli et ce n'est plus possible. Mais bon, on est dans la mode de réparer tout, donc les gens croient que tout se répare. Et tout ne se répare pas. J'ai refusé quelques paniers dans des états lamentables cette année en disant ça, on ne peut plus rien faire que de le mettre au feu. Ce qui est quand même un recyclage sympa. Voilà.
Alors, il y a un grand choix de paniers, de formes, de tailles. Est-ce qu'il y a des paniers spécifiques pour des tâches précises ?
Pas tellement, il y en a 2-3, par exemple le panier de cueillette que souvent les gens qui cueillent des plantes aromatiques s'en servent parce que c'est très pratique, ou pour cueillir des fruits, il est un peu ergonomique, il se tient en bandoulière, il est pratique. Après j'ai des paniers de toutes sortes, je ne fais pas de forme spécialement traditionnelle, ça ne m'intéresse pas. J'improvise toujours un peu, j'ai commencé à mettre des anses un peu de travers que j'ai constaté étant très pratique, au lieu de les mettre toujours symétriques, je fais toutes sortes de choses un peu créatives et chacun fait ce qu'il veut avec son panier. C'est des contenants, je fais aussi de la déco, ça ne sert à rien. C'est comme la poésie, ça ne sert à rien, c'est des choses qui servent à rien et qu'on aime quand même.
Ces formes, comment viennent-elles dans la facture ? Est-ce qu'il y a une idée un peu préconçue ou alors c'est un départ comme ça, sans savoir ?
Non, quelquefois, pour faire des choses vraiment artistiques que je présente au Festival des Arts de la Vigne ou dans d'autres manifestations un peu plus à vocation artistique, je fais des croquis sommaires parce que quand j'ai des idées et après je me dis tiens je ferais bien un petit truc de cette forme. Après je possède les techniques donc je peux faire un peu ce que je veux.
Là vous étiez en train de produire un départ de panier. Comment commence-t-il ce panier ?
Ben, dans cette catégorie de vannerie, parce qu'il y a deux grandes catégories, il y en a une où on fait des arceaux et on tresse autour. Ce n'est pas mon cas. Nous, on part de fond, on fait des fonds, et ensuite on accroche ou on pique selon le cas des montants. Et après, on monte, il y a différents tressages, au moins j'en connais bien une quinzaine. On monte un panier après ça, on part de fond.
Ça, c'est le panier en lui-même qui est constitué donc d'osiers que vous-même produisez.
Oui, j'ai une petite plantation d'osiers à Ravel, au hameau de Ravel, de l'autre côté du col de Miscon. Et je fais une dizaine de variétés là, j'en ai pas toujours des grandes quantités, on est tributaire du temps. L'endroit n'est pas idéal pour la culture de l'osier, ça manque d'humidité. Et je ne cache à personne que j'en achète aussi chez un collègue osiericulteur parce que je n'en ai pas assez pour faire l'année.
Et ça vous arrive d'aller aussi auprès de propriétaires qui possèdent des bordures de rivière avec des osiers? Vous allez au-devant d'eux pour leur demander de cueillir?
Oui, enfin, c'est plutôt eux qui viennent. J'ai un stand tous les samedis au marché à Di et beaucoup de gens me proposent de l'osier. Je vais voir s'il est beau et selon le cas, je le ramasse ou pas. Ouais, il y a beaucoup de gens qui me proposent, ils sont ravis que je prenne l'osier plutôt que de ne rien en faire. Donc ça, c'est assez sympathique. Je vais à droite et à gauche, sur Di, sur Miscon d'ailleurs aussi. J'ai des gens qui ont des saules, j'ai plein d'opportunités. Voilà.
Est-ce que pour vous, il y a un plaisir de produire un panier ?
Oh bah oui, j'ai toujours du plaisir à monter un panier. Et quand il est réussi, j'ai du plaisir à le regarder en disant « Ah, quand même, celui-là, je l'ai bien réussi, c'est tout. C'est pas compliqué. Un ouvrage manuel, on est content quand on a bien réussi. Quand l'osier allait bien, parce que des fois, il est capricieux. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui entrent en ligne de compte. Et c'est très satisfaisant aussi pour moi, qui était saisonnier agricole pendant une bonne partie de ma vie, d'avoir monté ma petite entreprise, certes vraiment petite, mais c'est à moi, c'est mon travail. Je travaille toute seule dans un atelier, je vais vendre au marché, je présente ce que je fais aux gens, c'est extrêmement satisfaisant, même si ce n'est pas tellement lucratif, loin de là.
À côté de ça, il y a cet aspect donc d'objet, un outil en quelque sorte, un objet de transport. Est-ce que vous proposez également de la création pure, complètement inutile ?
Oui, tout à fait. J'ai fait quelques pièces. Chaque année, j'en fais pour présenter à ce festival de Châtillon où j'ai des clients pour ça, des sculptures en osier, des choses comme ça. Oui, c'est ce que j'aimerais faire ça plus souvent.
Vous serez présente donc à Châtillon pour les arts et vignes. Vous êtes habituellement présente à ce festival?
Oui, ça fait des années que je viens. ça fait depuis, je ne sais plus, 2010 peut-être, je ne me rappelle plus bien. Et j'ai commencé à présenter 15 pièces, dont une ou deux un peu créatives, un peu vannerie asymétrique. Et après, je débutais à l'époque quand même, et je me suis enhardi à faire d'autres pièces.
Vous êtes autodidacte dans cette technique? Vous vous êtes inspiré de livres, de manuels pour connaître les bases? Il existe une base de toute manière.
Oui, je ne suis pas diplômée de l'École nationale de vannerie, mais j'y suis allée une ou deux fois. J'ai fait 3 stages, 3 semaines, et j'ai bossé chez moi et avec un bon bouquin. Et voilà, j'ai travaillé beaucoup dans les livres et je suis assez autodidacte, ouais, j'ai trouvé des solutions aux problèmes et j'ai travaillé, retravaillé les techniques jusqu'à ce que ce soit à peu près impeccable. Voilà, j'ai fait ça.
Je reviens au panier. Au départ, est-ce que vous dessinez quand même une forme qui vous inspirerait à travailler ?
Pour les pièces artistiques, oui, je fais des croquis. Quand j'ai une bonne idée ou je feuillette des livres de poterie de toutes sortes de pays, quand j'ai un moment. Ou... Et si j'ai une idée, à cause d'un objet que j'ai vu, ou d'une forme, ou d'un caillou, ou d'un arbre, je fais vite un croquis avant d'oublier. Et je me lance de temps en temps à faire quelque chose qui ressemble à ces croquis ou quelque chose que j'ai en tête. Je ne suis pas très forte en dessin.
À titre d'exemple, un panier classique, par exemple avec sa anse, son anse, combien de temps ça prend pour en fabriquer un?
On ne peut pas répondre à cette question. Est-ce qu'on commence par le moment où on a mis une bouture dentaire ou est-ce qu'on compte les années d'expérience et de dextérité? Donc je n'aime pas cette question, mais par contre je peux vous dire que tout prend plusieurs heures, même le plus petit truc. C'est pas les plus petits qui seront les plus vite faits d'ailleurs. Et comme moi je me complique la vie en mettant énormément de montants, des complications, des fioritures, des pignons, enfin toutes sortes de détails, je mets un temps fou. Et pour si on cherche à calculer notre chiffre d'affaires, franchement on plafonne à 5 euros de l'heure.
En cours de fabrication, est-ce que vous vous laissez emporter aussi par la forme, l'objet ou la matière?
Ça peut m'arriver de dévier, mais bon, il y a quand même une constante, c'est quand on a fait un fond d'une certaine épaisseur et qu'on a mis des montants d'une certaine épaisseur aussi, on ne peut pas faire, par exemple, un immense panier avec des petits brins grêles. Donc, il faut quand même respecter un minimum. Mais récemment, justement, j'étais partie pour faire un panier ventru, rond, assez classique, avec une anse. Et arrivé au moment où j'aurais dû clôturer, faire la bordure et arrêter, j'ai trouvé ça dommage et j'ai embrayé sur une espèce de potiche décorative ajourée qui était vraiment très réussie et que j'ai vendue récemment. Mais je peux faire ça, mais pas tout le temps. J'ai aussi ma clientèle du marché qui veut des paniers utilitaires. Donc je dois m'y tenir un peu. Je ne peux pas dévier tout le temps. Mais j'aime bien.
Certes, des personnes vous demandent des paniers utilitaires. Est-ce que d'autres aussi vous demandent des objets décoratifs, tout simplement?
Oui, justement, ce matin, il y a une dame qui m'a demandé un objet décoratif. Après, bon, franchement, une commande d'un panier utilitaire, c'est jouable. Mais une commande d'un objet décoratif, c'est un peu... On ne voit pas trop ce que les gens ont en tête et je ne prends pas vraiment de commande. Je dis que je ferai un truc dans l'esprit et vous viendrez voir parce que ce n'est pas possible de savoir ce que les gens ont en tête. Et puis, c'est ma création à moi. J'ai envie d'avoir de la liberté avec ça.
Il y a quand même une esthétique aussi sur vos paniers. Ce sont un entremêlage de couleurs très différentes. Ça, c'est dû à des branches d'origines diverses?
Oui, c'est les variétés d'osiers et qui ne sont pas forcément pareilles d'une année sur l'autre, de la même couleur et aussi au trempage. On ne sait pas trop ce qu'on va avoir quand on sort l'osier de l'eau. C'est toujours une surprise. Des fois, il est plus foncé, plus clair. Et je trie énormément pour faire des différences de couleurs assez surprenantes. Je fais tout un tri compliqué et interminable tout le temps.
C'est en arrivant ici, dans la Drôme, que vous vous êtes mis à la vannerie, en quelque sorte. Vous avez eu des rencontres aussi qui vous ont affirmé dans cette intention?
Non, pas du tout. Je n'ai vu personne. Il y avait eu une vannière, mais qui ne transmettait pas, qui n'avait pas envie. Donc, je n'ai pas insisté. Et non, c'était une idée personnelle. C'est-à-dire, je vais vous l'expliquer parce que quand même, ça vaut la peine. Je me suis retrouvée seule avec mes trois enfants et on m'a parlé reconversion professionnelle vu que j'avais travaillé à temps partiel avec mes enfants, voilà. Et je suis allée au Pôle emploi ou dans un organisme du genre. Et là, on m'a fait comprendre que j'étais obsolète sur le marché de l'emploi et vieille. J'avais 36 ans. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc qui me plaît pour une fois. Et je me suis lancée là-dedans. J'ai mis longtemps et j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup travaillé toute seule dans un coin parce que je gagnais ma vie en travaillant en parallèle dans une pépinière forcément et j'ai attendu que mes enfants aient quitté la maison, soient un peu autonomes pour faire ça. J'aurais pas pu me le permettre avant.
Est-ce que vous vous sentez soutenu justement par les organismes dans votre activité ou c'est difficile?
Je me sens absolument isolée. Je n'ai jamais eu aucune aide, que ce soit quelle que soit, pour monter mon activité. Je n'ai rien eu et je n'ai pas eu. Il n'y a pas de facilité pour l'artisanat, ni sur les marchés hebdomadaires. On est toujours un peu la dernière roue du carrosse. On est relativement mécontent de ça, vraiment même. Et en plus, souvent, on nous amène parce qu'on fait déco. On nous fait venir pour ça, et alors que nous, on doit travailler, on doit avoir des clients. C'est pas du tout évident et il y a des choses à trouver, des idées à trouver pour faire autrement. Mais il faut pas toujours compter sur les autres. Mais bon, j'ai pas tellement le temps de m'occuper de ça. J'ai pas eu trop l'occasion d'y réfléchir. Il faut voir.
Est-ce que vous transmettez votre savoir-faire? Vous organisez parfois des petits stages, des formations pour le public?
J'en ai fait beaucoup pour m'en sortir au début et en ce moment, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de m'occuper de gens. Il y a quelque chose qui me contrarie, c'est que beaucoup de gens, pas tous, mais beaucoup viennent, ils font des stages à tout va pour se désennuyer. Moi, je n'ai pas envie de m'occuper de gens qui se désennuient. J'ai un élève, par exemple, le seul, qui est devenu vannier. Et ça, c'était formidable parce qu'il était enthousiaste et il est venu plusieurs fois à l'époque. Et après, il est devenu vannier, il s'est lancé. Il a bossé aussi comme moi, tout seul. Maintenant, il est vannier dans le centre de la France. Il s'éclate. Mais bon, je comprends que les gens veuillent faire des activités créatives, mais en ce moment, je n'ai pas envie.
Il y a des liens entre vanniers, justement, à travers la Drôme, même au-delà. Hein. Vous citiez votre ami qui s'est mis à son compte donc en centre de la France. Est-ce que vous avez des contacts entre vous et essayez de voir ce qui est amélioré peut-être ou...
On est trop éloignés pour ça, mais j'ai quelques amis à droite et à gauche, effectivement. Et aussi, on s'espionne entre vanniers, donc j'ai eu un portfolio dans un magazine et tout le monde a vu mon travail. C'était bien, mais voilà, c'était marrant. Donc moi, je connais des vanniers par photo, par site internet ou des choses comme ça. Mais je ne connais pas tout le monde. Il faut dire que je ne vais jamais aux rencontres de vanniers. C'est trop loin d'ici. Il n'y en a pas près d'ici et moi, je ne vais pas loin. Je veux travailler à côté de chez moi.
Autour de cette activité de vannerie, vous avez justement quand même ce travail de traitement de l'osier entre sa cueillette et puis le traitement, le séchage. Quelles sont les étapes d'ailleurs de l'osier?
Eh bien, quand on a une oseraie, il faut récolter l'osier en hiver quand la sève est descendue. Ensuite, il faut le couper, tout trier, tout... Enfin, il y a beaucoup de boulot de tri parce que toutes les branches ne sont pas belles. Et il faut trier par taille aussi pour avoir un peu d'ordre. Après, on les fait sécher pendant jusqu'à fin juillet dans un endroit sec, un grenier ou quoi. Et ensuite, on peut se servir de cet osier à partir de là pour le retremper pendant 15 jours, 3 semaines, selon les variétés. C'est un peu compliqué. Et puis après, on peut travailler l'osier qu'on a trempé. Il se garde une semaine, 10 jours. Il faut faire vite. Et puis voilà, c'est le travail de l'osier, c'est ça.
L'eau humidifiant et assouplissant la tige permettait donc une certaine élasticité. Mais une fois installé ou, comment dire, tressé, est-ce que cet osier sèche et donc se rétracte et resserre d'ailleurs ce maillage?
Non, justement, c'est l'inverse. Il faut travailler très tassé parce que quand l'osier sèche, il peut prendre du jus si on n'a pas assez tassé. D'ailleurs, quand on travaille en osier frais qu'on a ramassé tout de suite, comme certains le font pour eux, là, il prend trop de jus. Donc, nous, on le retrempe systématiquement. Et on a toujours des outils comme la batte qui permet de tasser tout cet osier. Et il faut travailler, il faut beaucoup de force dans les doigts. Voilà, et sinon ça se tient pas.
Vous parlez d'outils justement, donc la batte, il y a combien d'outils en gros pour travailler?
n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, après, c'est du bricolage. Hein. Il y a le poinçon pour passer les brins, pour se faire de la place. Il y a la batte pour tasser. Il y a le sécateur pour couper. Et la serpette pour faire des tailles. Et un poids pour poser dans le panier pour qu'il ne bouge pas pendant qu'on travaille. Et après, c'est à peu près tout. Moi, j'ai encore un emporte-pièce et un coupe-cuir parce que je fais des sangles en cuir. Quelquefois, quelques pinces à linge peuvent servir pour tenir un endroit pendant qu'on tresse l'autre. Et un peu, ça s'arrête là. Hein. C'est un travail manuel. Il ne faut pas grand-chose. J'ai les mêmes outils depuis des années.
Est-ce que vous constatez une demande croissante de ce type de produit ?
Je ne sais pas si on peut parler de demande croissante, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ont des paniers, qui vont au marché à 10 avec des paniers que j'ai faits. Beaucoup de gens qui en ont chez eux, donc oui, mais il y a une demande quand même ici. Et puis c'est un bel objet, donc les gens se font beaucoup de cadeaux à Noël ou à l'anniversaire chez moi quand même. Je crois que les gens aiment beaucoup ça et qu'ils ne voudraient pas voir ce travail disparaître.
Qu'est-ce qui vous a amené dans la Drôme ?
J'ai suivi quelqu'un qui voulait y aller et ça s'arrête là. C'est un hasard. Mais honnêtement, j'ai toujours eu le mal du pays, c'est-à-dire la forêt des Vosges. Et je suis restée parce que j'ai une vie ici, tout simplement. Mais c'est très bien, hein, c'est magnifique aussi. Hein.
Joël Lutz, il y a une page internet pour vous connaître ou alors vous rencontrer, hormis le marché de Die par exemple, vous y êtes à tous les marchés, mercredi et samedi ? Non, juste le samedi ?
Oui, le samedi, j'ai un abonnement pour le samedi. Autrement, je suis en train de me faire un compte Instagram, mais je débute, alors je n'ai pas mis grand-chose dessus. Ça se fera. Il faut que... J'ai pris quelques leçons avec mes filles. Je vais voir. Et je voudrais faire vivre le compte en mettant des photos de pièces que je viens de faire, de foires où je vais. Mais je suis tellement mal à l'aise pour l'instant que je n'ai pas mis grand-chose. Je crois qu'il y a juste une photographie du marché hebdomadaire de Die. C'est pas formidable pour l'instant. Ça se fera.
Pour vous joindre, donc, marché de Die, mais est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou une adresse mail pour vous rencontrer ?
Ah oui, bien sûr, j'ai des cartes de visite quand je suis au marché. De toute façon, beaucoup de gens en ont. Et c'est marqué sur mon Instagram quand même. On peut trouver cette adresse et ce téléphone.
Je précise, Joël Lutz, donc.
Ouais.
D'accord. Non, parce que ça s'appelle la vanière, votre activité.
Oui, c'est ce que j'ai mis sur ma carte, oui. Mais je ne l'ai pas mis sur Instagram. Je n'ai pas su le faire. Je n'ai pas pensé. Mais Joël Lutz, on trouve.
Et qu'est-ce que ça vous fait d'être présent, justement, à ce festival, cette fête du circuit court à Miscon ?
C'est assez amusant. Et on aurait aimé être plus nombreux, il faudrait qu'il y ait plus d'exposants, un peu dans l'artisanat, ça aurait été, il y aurait encore eu de la place, mais c'était très sympathique et bien organisé.
C'est le premier coup d'essai, donc en espérant qu'il se développera avec plus d'importance en tout cas.
Oui, je trouve que c'est une bonne idée, d'autant que c'est vraiment pas loin de chez moi, donc ça... Ça, c'est un atout.
Joël, je vous remercie en tout cas de nous avoir donné de votre temps pour nous parler de votre activité. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Au revoir.
Bras d'osier, courbez-vous, assouplis sous les doigts du vanier.
Bras d'osier, vous serez l'olifrelle ou la mère berce un petit enfant au son d'un vieux couplet.
L'enfant la lèvre encore toute blanche de lait, s'endorant souriant dans sa couche légère. Bras d'osier, courbez-vous, assouplis sous les doigts du vanier. Vous serez le panier plein de fraises vermeilles que les filles s'en vont cueillir dans les taillis.
Elles rentrent le soir, rieuse au logis.
Et l'odeur des fruits mûrs s'exhale des corbeilles. Bras d'osier, courbez-vous, assouplis sous les doigts du vanier.
Vous serez le grand vent ou la fermière alerte. Fait bondir le froment, combattu les fléaux.
Tandis qu'à ses côtés, des bandes de moineaux
se disputent les grains
dont la terre est couverte. Bras d'osier, courbez-vous, assouplis sous les doigts du vanier. Bras d'osier, courbez-vous, assouplis sous les doigts du vanier. Lorsque s'empourpreront les vignes à l'automne, lorsque les vendangeurs descendront des coteaux,
bras d'osier, vous lirez les cercles détonnants,
où le vin doux rougit les douves et bouillonnent. Bras d'osier, courbez-vous, assouplis sous les doigts du vanier.
Bras d'osier, vous serez la cage où l'oiseau chante et l'anas se perfide au milieu des roseaux,
où la truite qui monte et file entre deux eaux s'enfoncer tout à coup se débat frémissante. Bras d'osier, courbez-vous, assouplis sous les doigts du vanier. Et vous serez aussi brin d'osier l'humble clé, ou quand le vieux vanier tombe et meurt en l'étang, tout prêt pour le cercueil. Son convoi se répand le soir dans les sentiers, où verdit l'oseraie. Bras d'osier, courbez-vous, assouplis sous les doigts du vanier.